nous sommes en train de considérer cette petite section de Colossiens 3, verset 1 à verset 17. Je relis Colossiens 3, verset 1. Dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir tous ceux qui, dans vos membres terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Juste ici, qu'ici notre lecture. Alors nous considérons le fait d'être en Christ et nous considérons surtout depuis peut-être il y a 2 semaines, je ne sais plus, mais on considère la question 5 où on a un impératif, quelque chose que nous devons faire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Et puis on avait vu que Paul cite plusieurs choses. Voilà. Parce qu'il faut être précis lorsqu'il s'agit de faire des choses, de mettre des choses en pratique. Donc, il énumère des péchés que l'on doit faire mourir. Et la première chose qu'il énumère, c'est quoi? C'est la débauche, ou peut-être vous avez dans votre Bible, l'impudicité. Hein, l'impudicité. Alors, je vous ai fait des petits papiers aujourd'hui. Il faut dire merci à la grève. Parce que je suis rentré plus tôt à cause de la grève et comme j'avais un petit peu de temps, je me suis dit, bon, ben, je vais faire des petits papiers à trous. Ouais. Les trous, ça permet d'avoir les yeux le soir en face des trous et de ne pas de pouvoir suivre. Donc, quelqu'un veut peut-être prendre ça pour... Merci, Jérémy. Alors, j'espère que j'en ai fait assez, sinon il y en a quelques-unes encore sur l'imprimante qui normalement... Voilà. Donc, la première chose que nous allons considérer ici... Quelqu'un peut prendre, Patrick, tu peux prendre cette imprimante, ouais, parce que, merci. Il dit donc, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. J'aimerais bien avoir une si possible, c'est juste pour voir où vous en êtes parce que j'ai pas fait les trous pour moi. Il y en reste ? Non, il y en a d'autres. Hein. Tu gardes toi. C'est bon. Ouais. Merci. Ouais. Donc, page 1. Alors, premièrement, on veut considérer de quoi est-ce qu'il s'agit. Lorsque l'écriture nous donne une exhortation de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, c'est important de comprendre de quoi il s'agit. Alors ici, il dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre ». On avait considéré le fait que c'est dans nos membres, en nous-mêmes, qu'il faut faire mourir les choses et pas chercher à viser les autres. La première chose ici, c'est la débauche. Alors je vous ai mis un petit peu, on avait considéré ça, je pense, on avait commencé à le considérer, hein. La débauche, de quel mot ça vient et ce que ça veut dire, hein, pornéac, vous connaissez bien au moins dans la consonance, ici qui a donné le mot pornographie. Et la pornographie, c'est l'imagerie de l'impudicité. L'imagerie de l'impudicité. Alors, c'est-à-dire l'imagerie de tout péché sexuel. Alors, c'est parfois traduit par infidélité dans la Bible, mais ça désigne aussi toute forme de rapport sexuel illicite. Alors, dans le dictionnaire, je vous encourage à avoir un dictionnaire biblique chez vous, au moins sur votre ordinateur, parce que ça permet de chercher les définitions des mots et d'avoir un peu les occurrences dans la Bible. Et parfois, la plupart du temps, c'est bien fait. Vous pouvez le suivre facilement. Alors, je vous lis quelques notes que j'ai relevées ici, hein, du dictionnaire, qui dit que le mot débauche traduit toute série de dérèglements, surtout sur le plan sexuel, exprimé. Ça peut s'exprimer aussi en hébreu par un mot, donc je n'ai pas besoin de le citer, mais en grec, il y a une variété de mots qui est traduit parfois par le mot débauche. Ici, on a le mot porneia, mais ce n'est pas le seul qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et c'est un terme qui est assez générique, hein, assez englobant. Ça englobe beaucoup de choses, sans qu'on puisse faire vraiment mettre des limites entre les choses. Parfois, ça s'interpénètre, hein. Les mots sont... Vous pouvez trouver débauche et impudicité dans un même mot. Donc, ça veut dire qu'on a traduit par débauche et par impudicité deux mots différents. Hein. Donc, c'est quand même relativement proche. Il y a beaucoup de mots. Il y a une dizaine de mots différents. Hein. Et on trouve beaucoup dans la Bible, beaucoup d'endroits où la débauche, l'impudicité, l'infidélité, le dérèglement, l'incontinence, l'intempérance, beaucoup de, les amis du plaisir, les plaisirs, voilà, le fait d'être dissipé. Donc il y a beaucoup, beaucoup de mots qui traduisent la débauche ici. Hein. Et la débauche, en fait, c'est le résultat d'un manque de maîtrise de soi ou de discipline. C'est une vie qui est, on dit souvent, dissipée. Une vie qui est dissipée. Le mot débauche exprime vraiment de manière forte cette expression d'être dissipé. Donc on le retrouve pour traduire aussi la prostitution, par exemple, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 6, la vie de dérèglement. Mais la débauche ne désigne pas seulement le dérèglement sexuel. Par chaque fois que vous lisez débauche, la Bible ne faut pas croire que c'est uniquement le dérèglement sexuel. Ça englobe aussi l'excès de boissons, les excès de table et tout cela. Hein. Vivre dans les excès, c'est traduit aussi souvent par la débauche ici. La débauche, c'est une idolâtrie aussi. Hein. Souvent, on trouve ça dans l'écriture, parce qu'elle place, dit le dictionnaire, elle place la jouissance sensuelle au-dessus de Dieu. Et la jouissance, ça peut être dans les plaisirs sexuels, mais ça peut être dans les plaisirs de la table ou de toutes ces choses-là, du manger et du boire. Il y a des gens qui placent ça au-dessus de Dieu. Donc ça devient de l'idolâtrie. Hein. Il y a un passage de l'apôtre Paul, je pense que c'est dans Philippiens, où il dit « Ils ont pour Dieu leur ventre, hein, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur... Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. » Donc la débauche a sa source dans la convoitise de la chair et elle représente une révolte contre Dieu qui a créé notre corps pour sa gloire. Et donc les croyants, et c'est l'exhortation de Paul ici, les croyants doivent se garder de retourner dans la débauche du passé. Et l'apôtre Pierre dit, vous rappelez, hein, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne... » comme il dit ça encore, on avait vu cela, hein, que vous ne vous tourniez pas dans le même débordement de dérèglement. Il dit un peu comme ça, je n'ai pas exactement le même mot, mais il dit que les anciens amis trouvent étrange que le croyant ne se donne pas, ne se verse pas. Hein, quel mot t'es? Participe pas, voilà, dans le même débordement de dérèglement, de débauche, on pourrait dire. C'est un petit peu le sens qu'il a. Donc ça veut dire que ça appartient à la vie passée. Et maintenant, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, vous rappelez ça au verset 1, et que votre vie est cachée, vous êtes mort avec Christ et que votre vie est cachée avec Christ en Dieu, alors faites mourir toutes ces choses-là. Vous ne devez plus retourner dans ces dérèglements de débauche. Et encore une fois, le mot débauche ici a un sens général sur tout ce qui est les relations sexuelles illicites, mais aussi sur tout type de dérèglement. Donc on est concerné, bien sûr, par tout cela. Alors, la Bible, je vous ai mis deux versets ici, regorge de passages qui soulignent avec force la lutte que nous avons à mener contre la débauche. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 est très fort. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Voilà encore, voilà, une lutte, il faut s'en abstenir. Ça, c'est ce que Dieu veut. 1 Corinthiens 6, 18, hein, sur votre papier. Là, c'est très fort. Qu'est-ce qu'il demande ici de faire ? De fuir, hein. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité ou à la débauche pêche contre son propre corps. Dans le péché sexuel, il y a quelque chose qui est particulier quand même, hein, puisque quand il parle avec les Corinthiens de celui qui va vers une prostituée, devient un seul corps avec elle, il dit qu'il y a quelque chose de particulier dans ce péché. Donc il faut être extrêmement, extrêmement vigilant. Donc là, ça, c'est un peu pour définir de quoi il s'agit. Je pense que l'on comprend de quoi il s'agit et il faut être conscient que cela nous concerne tous, hein, parce que on peut, si l'apôtre Paul écrit cela à l'église de Corinthe, qui est une église, s'il écrit ça ici et il écrit à des chrétiens, il écrit pas à des gens du monde ici, il écrit à des chrétiens, il dit « faites mourir cela », c'est que ces choses ont besoin de mourir. Ça veut dire qu'elles sont vivantes et qu'elles ont besoin que nous les fassions mourir dans notre manière de vivre la vie chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément extrêmement dissolu, mais ça peut vouloir dire qu'on est léger sur beaucoup de points et inconscient qu'on vit d'une manière qui ne glorifie pas Dieu dans ce domaine-là. Alors, comment faire mourir la débauche. Alors, avant ça, je voulais souligner que il n'est pas besoin de dire combien de drames la débauche a engendré dans le monde. Hein. Combien de drames la débauche a engendré dans le monde. Combien de familles ont été brisées. Combien de relations ont été rompues. Combien même de ministères, parfois, ont été stoppés net même, à cause de la débauche. Combien de pensées ont été souillées, meurtries, parfois de manière presque indélébile, sans que ça puisse s'effacer. Et notre société est une société hyper sensualisée. Quand on poste, souvent les jeunes postent des photos sur Internet, sur, c'est pas moi, Instagram ou c'est pas les autres trucs, là. C'est toujours pour se montrer. Hein. Avec la nouvelle robe, ou alors presque sans robe, hein, ou autre chose, d'accord. Et pareil pour les garçons. Hein, voilà. Et je pense qu'on est, il faut être conscient de ça, on est dans une société qui est hyper sensualisée. Et partout, vous allez sur les affiches de bus, n'importe où, au métro, etc., tout est fait pour attirer les sens, mais dans le domaine sexuel particulièrement. Et la débauche est extrêmement accessible, d'accord. Très accessible maintenant. Un téléphone au bout du doigt, il suffit de faire glisser le doigt, c'est vite fait. Un double clic de souris, et c'est vite fait. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose qui est à portée de main, accessible n'importe où, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, et malheureusement à n'importe quel âge aussi. Et même, la débauche est institutionnalisée. Parce qu'on vote des choses qui vont dans ce sens. Vous imaginez, on inscrit dans la constitution des choses qui poussent les gens à faire ce qui n'est pas correct parfois devant Dieu. Donc l'enfant de Dieu, il est appelé, lui, à faire mourir cela. Il est appelé à faire mourir cela. Alors comment est-ce qu'il doit le faire? Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cela, mais quelles sont vos réponses si on me dit comment faire mourir? Alors, ne regardez pas ce que j'ai mis en dessous déjà pour l'instant, mais comment faire mourir le péché, comment faire mourir particulièrement l'impudicité? Est-ce que vous avez des réponses? Quelques réponses? Si quelqu'un vous pose la question, mon frère, ma soeur, etc., comment il faut faire, etc.? Oui? Oui, voilà. Faire attention à ce qu'on lit et ce que l'on regarde, oui. Très bien. S'éloigner. Très bien. Oui, très bien. La prière. S'éloigner par la prière. Être discipliné. Oui. Oui. Et mettre en place la discipline, la stratégie. mettre son plaisir dans le Seigneur et dans sa parole. Alors, on va regarder quelques pistes. Ce ne sont pas les seules, hein. Ce n'est pas exhaustif ce qu'on a fait ici, mais quelques pistes que nous donne l'Écriture. Est-ce qu'on peut lire, on a déjà lu 1 Corinthiens 6, 18, 2 Timothée 2, 22, donc 1 Corinthiens 6, 18, c'est un petit peu plus haut dans la page, mais quelqu'un veut lire 2 Timothée 2, verset 22 ? Voilà, donc quelle est la technique, quelle est l'attitude, quel est le commandement qui est donné ici, à la fois dans 1 Corinthiens 6, 18 et 2 Timothée 2, 22. Fuir. Voilà, fuir et rechercher. Donc, mais d'abord, par rapport à la débauche même, il est question de fuir. Et fuir, ça veut dire quoi? Ça veut dire courir, ça veut dire... S'écarter, oui, il faut le remplacer par d'autres mots pour bien peser ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire courir, ça veut dire s'écarter, aller le plus loin possible de quelque chose et le plus vite possible. Et le plus longtemps possible, il ne faut pas y revenir. C'est vrai, hein? Parce que quand il y a un danger, hein, vous ne fuyez pas comme ça. Hein? D'accord, hein? Il y a une expression qui s'appelle prendre ses jambes à son cou et on court. Hein. Si vous rencontrez un lion, vous voulez savoir que vous courez plus vite que lui quand même, hein. Même si c'est pas juste. Alors Paul dit ici, et là il parle des passions de la jeunesse dans 1 Timothée 2, parce qu'il y a des choses qui sont liées, c'est pas que les passions sensuelles, mais c'est tout ce qui est lié à la jeunesse, parfois ça peut être les ambitions et tout un tas de choses. Il dit qu'il faut fuir ces choses. Hein. Et le sens ici, l'idée qui est renfermée, c'est celle d'une sécurité. D'accord, je l'ai mis ici. Hein. L'idée renferme celle d'une sécurité à rechercher dans la fuite continuelle. Donc le titre ici, le petit A, c'est la fuite continuelle. La fuite continuelle. C'est pas juste fuir un jour et ne pas fuir le lendemain. C'est fuir continuellement. Qui c'est qui a... Donnez-moi un exemple de quelqu'un dans l'Ancien Testament qui a fui continuellement. Joseph. Hein? La Bible dit que Joseph a connu une grande tentation de la part de la femme de Potiphar et lui, il a fui. Il a fui hier, il a fui aujourd'hui et il a fui demain. Il dit quoi qu'elle le sollicita tous les jours, il a refusé tous les jours. Et puis quand la pression était trop grande parce que, bon, cette femme, il y avait un moment où il n'y avait personne, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. D'accord? Il a fui. Et il a fui en laissant son vêtement. D'accord? Ça veut dire que la fuite, quand on fuit, on ne cherche pas à rassembler des souvenirs. Hein. On peut reconnaître un lieu d'où quelqu'un a fui d'un lieu d'où quelqu'un a déménagé. Hein. Quand on a déménagé, quand Indra va déménager, hein, ça va être, elle va prendre ses petites affaires, mettre ses petits trucs dans le paquet, etc., etc. On prend soin de prendre les choses et puis on les emporte. Quand on fuit, on laisse les choses de côté et on va le plus vite possible. Et Joseph a laissé vraiment son vêtement pour fuir. Et quelqu'un disait, j'ai lu un commentaire d'un auteur qui disait que il vaut mieux perdre son beau manteau que perdre une bonne conscience. Il a dit, il a dû laisser tout ce qu'il fallait pour pouvoir fuir le danger. Et c'est ainsi que l'on doit faire aussi. Donc, ça, c'est une première chose. Fuir les lieux, hein, ne pas aller dans les lieux où je sais, fuir les camaraderies qui pourraient m'entraîner, etc. Donc, il y a cet aspect physique, hein, dans cette fuite, mais il y a aussi l'aspect intellectuel. Je peux fuir en ne lisant pas, en ne regardant pas, etc., hein. Je peux m'éloigner le plus possible de ces endroits-là. Je vais dans un mariage, par exemple. Okay. C'est des amis, ils ne sont pas croyants, mais je sais très bien que les choses peuvent dégénérer quand l'heure de la soirée avance. Qu'est-ce que je fais en tant que chrétien? Je dis, bon, après tout, on m'a invité, je peux peut-être mal élevé, partir en n'importe quand, etc. Ou est-ce que je dis, non, ça, je suis un enfant de Dieu, je sais que ça va dégénérer, je fuis, je pars. Avant que les choses ne dégénèrent et que je ne me trouve dans ces circonstances. C'est ça que ça veut dire. Hein? Et je fuis. Okay? Deuxième chose ici, deuxième attitude que l'on peut avoir. Donc on va lire Matthieu chapitre 5 verset 29. Je lis le verset, il est là sous vos yeux. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il dit, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux, je lis la suite, pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit jeté dans la géhenne. Qui c'est qui a dit ça? Jésus. Est-ce que vous vous souvenez dans quel contexte il a dit cela? Oui, mais précisément dans quel contexte? De quoi il s'agissait? De quoi il parlait quand il a dit ça? De l'adultère. Il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quoi? Si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est pourquoi il dit, si ton œil est pour toi. Donc ça vient juste après. En fait, le contexte qu'il a, c'est le contexte de l'adultère, de la débauche, de la sensualité, etc., etc. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, voilà ce que tu dois faire dans ce domaine particulier. Et donc, ça nous donne comment on peut faire mourir ici le péché d'impudicité. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Donc, qu'est-ce que Jésus nous apprend ici dans cette manière, dans ce qu'il faut faire ici? Il faut, dit-il, alors j'ai mis un petit pointillé ici, discerner les occasions de chute. Il faut discerner les occasions de chute. Une occasion de chute, c'est tout ce qui peut contribuer au développement de l'impureté sexuelle dans ma pensée et dans mon cœur. Donc il faut discerner ce qui pourrait être une occasion de chute. Il ne dit pas de discerner la chute, d'accord ? Il dit, si ton œil est pour toi une occasion, c'est-à-dire, l'œil n'est pas mauvais, est-ce que l'œil est mauvais? Non, l'œil est même indispensable au corps, les mains ne sont pas mauvaises, elles sont même indispensables au corps, mais il dit, mais ce qui est indispensable peut parfois devenir une occasion. Donc, il ne faut pas, comment je vais dire, il faut être vigilant et savoir que tout peut être une occasion. Un ami, bon ami peut être une occasion de chute. Moi-même, je peux être pour moi-même une occasion de chute. Donc, il faut que je sache, telle situation peut être une occasion de chute. D'accord? Telle chose que j'aime, peut être, j'aime le sport, je regarde le sport à la télévision, voilà, ça peut être une occasion de chute parce que entre deux buts, je ne sais pas moi, entre deux trucs, il y a peut avoir une publicité. Et c'est une occasion de chute. Il dit, il faut discerner ce qui peut constituer une occasion de chute. D'accord? Une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qu'il dit? D'autres. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être pour nous des occasions de chute. Hein. On peut en citer quelques-unes. Hein. Les objets, les émissions audio, les émissions télévisées, les films, Internet, les YouTube, les je ne sais plus quoi, hein, les magazines, les amitiés, les conversations, les livres, les habits. Tout peut être une occasion de chute. Et il faut le discerner. Il faut qu'on puisse dire, ça c'est une occasion de chute. Donc on peut remplacer l'œil par autre chose, hein. Si les conversations sont pour toi une occasion de chute, si les amitiés sont pour toi une occasion de chute, si les livres, tels livres sont pour toi une occasion de chute, si telle émission telles émissions sont pour toi une occasion de chute, etc., etc. Donc, discerner. Deuxièmement, ici, qu'est-ce que Jésus montre à travers ce passage? Il montre qu'il faut traiter radicalement les occasions de chute. Il faut traiter radicalement les occasions de chute, ici. Arrache-le, dit-il, et jette-le loin de toi. Coupe-la, si ta main, etc., et jette-la loin de toi. C'est quand même radical, hein. Il y a des gens qui ont pris ça au mot, et puis qui ont commencé à se mutiler, à se couper un membre. Bon, c'est pas ce que Jésus dit ici. Il ne dit pas qu'il faut s'enlever littéralement son œil, on pourrait dire. Mais néanmoins, ce que le Seigneur enseigne, et je l'ai mis ici, c'est que la lutte pour la pureté mentale exige la mise en place de mesures, pointillé ici, de mesures radicales et parfois sacrificielles. C'est ça que ça veut dire. Le fait qu'il dise ton œil, tu l'arraches, ta main, tu l'arraches, ça veut dire qu'il faut pouvoir être aussi radical si besoin est. L'enjeu est tel qu'il faut aller, c'est comme si on devrait s'arracher un œil. Et si on arrive à ce stade-là, il faut être prêt à le faire. Donc il faut enlever radicalement ce qui peut être une occasion de chute. Et il dit, notez ici qu'il dit qu'il faut qu'il y ait une grande distance entre l'occasion de chute et le disciple. Il dit, jette-le, il ne dit pas jette-le à côté, il dit jette-le loin de toi. Parfois on jette à côté, ce livre-là il n'est pas terrible, il n'y a pas de bon truc là-dedans, et puis on met dans l'étagère. Allez, bon, allez. Non, il dit, il ne faut pas faire ça. Tu dois le prendre et le jeter. Je me souviens, je crois que je vous ai raconté cette histoire d'un frère, j'étais allé le voir et puis il me dit, ouais, bon, ce CD, il me dit, il n'est pas bon, c'est pas bon, vraiment, je te dis, il n'est pas bon. Il me dit, mais j'arrive pas à le jeter, je ne peux pas le jeter. Il me dit, je vais l'acheter. J'ai dit, tu veux que je te le jette? Et il m'a dit, oui. J'ai pris, j'ai cassé, hop, et puis après, j'ai amené à la poubelle, pas chez lui, mais j'ai jeté dans la rue, c'est pour où j'ai jeté. Parce qu'il n'arrivait pas à le faire et il fallait mettre de là. Distance entre ça, parce qu'il sait qu'à chaque fois, vous savez que le truc, il est là. Et vous allez y revenir. Nous allons y revenir. Donc, quand il dit, tu le mets loin de toi, c'est d'une manière de dire que tu n'y retournes pas. À une distance telle que tu ne peux pas y retourner. Proverbe 4:15, je ne sais pas si je vous l'ai mis ici, dit, je ne vous l'ai pas mis. Quelqu'un peut le lire, Proverbe 4:15 et 14 et 15, quelqu'un là, rapidement. Voilà, c'est une attitude que l'on doit avoir. Il dit, n'entre pas dans le sentier des méchants, mais ne marche pas dans la voie des hommes mauvais, mais évite d'y passer. Tu mets de la distance, tu te détournes et tu ne passes pas par là, tu passes outre, tu prends un autre chemin. Si vous savez qu'il y a une tentation sur une route, trouvez un chemin parallèle. C'est ce que l'Écriture nous enseigne à faire ici. Donc on doit constater que la distance, souvent, entre les occasions de chute et nous, sont de plus en plus étroites. On préjuge souvent de ses forces. On dit, mais j'ai le Seigneur, je suis capable de résister, je peux regarder cela sans chuter, je peux faire ceci ou je peux fréquenter telle personne sans que cela n'ait un effet sur moi. Et on ne se rend pas compte qu'il faut peu de choses pour basculer. Vraiment très peu de choses pour basculer. Et donc, il nous faut apprendre vraiment à développer, non pas la capacité à s'approcher le plus près possible sans tomber, mais plutôt la capacité à s'éloigner le plus loin possible pour ne pas tomber. C'est ce que l'Écriture nous enseigne à faire. Dis pas, regarde, à quel point tu es capable de t'approcher du mal sans tomber, ça veut dire que tu es pas mal, tu as fait des progrès. Non, 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 il dit, tu t'éloignes le plus possible afin de ne pas tomber. Ça, c'est le second point. Une autre manière de faire aussi pour dans la lutte, dans la mise à mort du péché, particulièrement de l'impudicité aussi, c'est qu'il faut agir autant défensivement, là, c'est facile à trouver l'autre mot, qu'offensivement. Il faut agir autant défensivement, ici le petit C, qu'offensivement. Alors, c'est quoi l'attitude défensive ? L'attitude défensive, c'est « je ne fais pas ce qui pourrait m'entraîner à chuter ». Voilà, je résiste, je ne fais pas ce qui pourrait m'empêcher à chuter. L'attitude offensive, c'est « je fais tout ce qui m'entraîne loin de là et qui va m'aider à obéir ». Là, je suis dans l'offensive, je vais mettre en place des choses qui vont m'aider à, et je vais faire des choses positivement. Je me souviens d'un courrier qu'elle a envoyé Anna quand elle a dit je prie que Dieu me montre quelque chose comme ça dans la journée, qu'est-ce que je peux faire pour que mes pensées soient là. Donc il faut résister au fait de ne pas avoir de mauvaises pensées, mais dans sa situation où son mari n'est pas là, il faut aussi demander à Dieu la grâce d'avoir, de penser à quelque chose positivement qui peut conduire loin de développer, du fait de développer trop de pensées néfastes. Et ça, c'est un point qu'on trouve souvent dans l'Écriture. Je vous ai mis ici quelques exemples. Romains chapitre 12, verset 21, dit quoi ? Ne te laisse pas vaincre par le mal. Point. Non, c'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit ? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal. Défensif, tu ne te laisses pas vaincre par le mal, mais qu'est-ce que tu fais ? Positivement, offensivement, tu surmontes le mal par le bien. Tu fais le bien. D'accord ? On peut en trouver d'autres encore. Donc, dans Éphésiens 4, verset 25, 28, 29, je vous lis, il dit ici, hein, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ici, il dit car nous sommes tous membres les uns des autres. Donc l'exhortation ici, ce n'est pas simplement de ne pas mentir. Hein. Un peu plus loin, on trouve que celui, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. L'exhortation, ce n'est pas simplement de ne pas voler ici. Donc, ce n'est pas simplement de ne pas mentir, ce n'est pas simplement de ne pas voler, mais c'est d'avoir une attitude dans laquelle on va faire le contraire positivement. Donc, il dit ici, verset 28, par exemple, je ne vous l'ai pas mis, je pense là, verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas voler ? Mais ce n'est pas tout. Il faut faire quoi ? Travailler pour quoi faire ? Pour donner à ceux qui ont besoin. Donc, que fait le voleur ? Il prend pour lui. D'accord ? Et maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire quand il est converti, quand les choses pourraient ne plus être un voleur bibliquement ? Il doit donner. Il ne doit pas donner ce qu'il a volé. Hein. Il doit lui-même travailler pour pouvoir donner. Donc, vous voyez, la transformation ne consiste pas simplement à ne pas faire quelque chose, mais à être dans la direction complètement opposée. Hein. Et dans un catéchisme de Westminster, ils disent ça comme ça. Ils disent, quelles sont les règles à observer pour la bonne compréhension des 10 commandements ? C'est expliquer comment on doit comprendre les 10 commandements. Il dit, quand le devoir est commandé, quand un devoir nous est commandé, le péché contraire est défendu. Si la Bible dit, faites ceci, tout ce qui est contraire est défendu. Et il dit aussi, et lorsqu'un péché maintenant est interdit, il dit, le devoir contraire est commandé. Et j'aime bien comment c'est dit. On reprend ça, il dit, quand un devoir est commandé positivement, tout péché qui est contraire à ce commandement-là est défendu. Et lorsqu'un péché est défendu, interdit, tout commandement contraire, toute loi contraire, on pourrait dire tout devoir contraire est commandé. Donc je dois toujours faire positivement ce qu'on me demande, enfin le contraire de ce qu'on me demande de ne pas faire négativement. Et c'est ça qu'on doit comprendre quand on lutte contre la débauche. Il suffit pas de ne pas regarder, de ne pas simplement, mais de m'inscrire dans tout ce que je pourrais faire et qui pourrait m'amener dans ma conduite loin de là. Ici. Alors, pour reprendre un exemple qui reste dans ce domaine, dans Hébreux chapitre 13, verset 4, je vous l'ai mis ici, hein, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques, c'est notre mot aussi, et les adultères. Donc, ça veut dire quoi ? Il dit qu'il ne faut pas souiller le lit conjugal. Il ne faut pas commettre la débauche. Il ne faut pas commettre l'adultère. Mais comment il faut le faire ? Il faut le faire en honorant le mariage. Ça veut dire quoi, honorer le mariage ? Est-ce qu'on peut avoir quelques pensées ? Ça veut dire quoi, honorer le mariage ? Qui doit honorer le mariage ici ? Ceux qui sont mariés ? Ah ? Tout le monde. Tout le monde. Le commandement, il est pour tout le monde ici. Le commandement de ne pas souiller le lit conjugal, il est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour ceux qui sont mariés. D'accord ? Quand quelqu'un commet l'adultère, parfois avec quelqu'un qui n'est pas marié, eh bien celui qui n'est pas marié souille le lit conjugal de celui qui est marié. N'est-ce pas ? Donc le commandement est pour celui qui n'est pas marié et pour celui qui est marié, de ne pas souiller son propre lit conjugal. Pareil, le commandement positif, ça c'est l'interdiction, mais le commandement positif, c'est quoi ? C'est d'honorer le mariage. Et qui c'est qui doit honorer le mariage ? Celui qui est marié et celui qui n'est pas marié aussi. D'accord ? Donc, Nous, et là, c'est comment est-ce qu'on lutte? On lutte en allant vers ce qui est profondément positif et qui est dans le sens du commandement de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on honore le mariage? Est-ce qu'on peut avoir des hommes? Comment est-ce qu'on honore le mariage ici? Est-ce que vous avez des idées? Bien sûr, on va dire ne pas commettre l'adultère, mais là, on est dans le défensif. Comment est-ce qu'on l'honore, le mariage?
En obéissant de manière que Dieu l'a conçu, le mariage.
Très bien. En obéissant à la manière avec laquelle Dieu a conçu le mariage. En obéissant et en le défendant devant les gens. En le défendant devant les gens. D'accord? On peut dire, hein, comme Jean-Pierre a dit, voilà, bon, ben, oui, maintenant dans la société, ça se passe comme ça, etc. Non, il dit, la manière de lutter contre la débauche dans le cadre du mariage, c'est de honorer le mariage en respectant l'ordre que Dieu a établi depuis la création pour le mariage. Un homme, une femme. Il faut le défendre, il faut le dire. C'est comme ça qu'on lutte contre. Parce que sinon, on va laisser les pensées nous envahir et puis on va finir par penser comme tout le monde. Mais comment est-ce qu'on peut encore honorer le mariage, dans son propre mariage aussi? Hein? En aimant la personne, en étant fidèle, en étant transparent, d'accord? Oui? D'autres choses? Quelqu'un dit quelque chose d'autre? Le respect. D'accord? En mettant en pratique tout ce que la parole de Dieu me demande de mettre en pratique, par exemple à l'égard de mon épouse, hein, en aimant fidèlement, et l'épouse en faisant exactement ce que Dieu commande de faire. D'accord? On fait tout ce qui est en notre possible pour honorer le mariage, mais on va aussi aider les autres à honorer le mariage. Quelqu'un disait que ce que Dieu nous commande à quelqu'un de faire, d'accord? Si moi, je ne suis pas dans cette situation, je dois l'aider à obéir au commandement de Dieu. Quand quelqu'un est marié, par exemple, ce n'est pas notre cas tous, mais quand quelqu'un est marié, okay, et qu'il est sur le point, il y a des difficultés dans son couple, je ne vois pas ça comme une opportunité pour moi. Parfois, il y en a qui en profitent, hein, et saisissent ça comme une opportunité. Ah, peut-être que je peux en profiter, si jamais ça casse là, ici, j'ai peut-être une petite chance. Je dis ça, j'exagère un peu, mais bon, mais ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Ce que je veux dire, c'est que on va dire non, mon frère, non, ma sœur, non, tel, tu ne peux pas faire cela. Tu peux pas. Il faut faire tout ce qu'il faut pour maintenir ce mariage parce que Dieu a horreur du divorce. Et voilà ce que Dieu dit. C'est-à-dire que même si je ne suis pas. Je suis célibataire, je suis en dehors de ça. Je défends le mariage, je l'honore et j'éloigne la débauche. Vous sentez ce qu'on veut expliquer ici? Donc on est appelés tous à défendre la vérité de la parole de Dieu. Et la manière, je crois ici, une manière qui est importante ici d'agir contre la débauche, contre le péché, de faire mourir, c'est d'agir aussi offensivement. Pas que défensivement, en disant « ouais, bon, je ne fais pas ». Okay. Mais comment je peux être engagé dans le faire, dans la défense même de la chose, au point où positivement je fais des choses, où j'encourage dans des directions qui vont dans la direction de l'obéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est une manière de faire. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on veut prendre quelques sujets de prière et on verra le dernier point la prochaine fois. Donc que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Hein. La Bible dit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche. » Il nous faut réfléchir à ce que c'est. Il nous faut chercher, est-ce qu'il n'y a pas, ça c'est pas une occasion de chute pour moi. Cette conversation légère que j'ai avec cette personne, est-ce que ça ne m'entraîne pas dans telle pensée? Cette manière de me vêtir, est-ce que ça ne m'entraîne pas dans cette pensée? Cette chose que j'écoute, est-ce que ça ne m'entraîne pas dans cette pensée? Il faut saisir où sont les occasions et demander à Dieu la grâce de rompre radicalement avec elle. Demander à Dieu la grâce aussi, bien sûr, d'être sur la défensive, mais plus que cela, d'obéir positivement à ses commandements, de chercher ce que je peux faire qui va aller dans le sens où on va pouvoir obéir à la parole de Dieu, ce que je peux mettre en œuvre qui va m'aider à obéir à la parole de Dieu. On va revenir un peu en résumé la prochaine fois sur tout cela. Voilà, peut-être quelques sujets de prière.